Voici le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour.
6 mois après la disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn, son mari Cédric a été mis en examen hier pour homicide volontaire. Il a été placé sous mandat de dépôt. Reportage dans un instant. Les autres titres, Hélène.
J-1 avant les régionales et les départementales. Scrutin avec protocole sanitaire obligatoire. L'Iran a voté ou pas. Il faut s'attendre à une abstention record. Résultat de la présidentielle avec un ultra-conservateur en favori dans les heures qui viennent. Et puis le foot. Les Bleus en Hongrie, dans un stade plein à craquer, coup d'envoi 15h. L'Euro de foot et le nul 0-0 entre l'Angleterre et l'Écosse hier soir.
Et à 8h20 ce matin, question à Marie Pelletier. Elle est historienne, chercheuse, spécialiste du complotisme. Son livre « L'ère du complotisme, la maladie d'une société fracturée » vient d'être réédité aux éditions Les Petits Matins.
France Inter. C'est lui qui avait appelé les gendarmes pour signaler la disparition de sa femme dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier. On l'avait même vu ensuite participer à une marche blanche. Cédric Jubilard, mis en examen hier pour meurtre sur conjoint, placé sous mandat de dépôt. 6 mois d'investigation autour de Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Toujours aucune trace de Delphine Jubilard, cette infirmière de 33 ans, 2 enfants. Mais les enquêteurs ont relevé une série d'éléments troublants. Cédric Jubilard n'aurait pas beaucoup cherché son épouse cette nuit-là. L'analyse du podomètre de son téléphone ne comptabilise que 40 petits pas. Et puis quand les gendarmes arrivent sur place, il vient de lancer une machine. Il est en train de laver la couette de sa femme. Ce n'est pas tout, David Di Giacomo.
Le soir de la disparition de Delphine Jubilard, son petit garçon de 6 ans dit aux gendarmes avoir entendu depuis sa chambre une violente dispute entre ses parents. Deux voisines parlent même de cris stridents d'une femme, des cris qui provenaient de la maison du couple. Mais Cédric Jubilard assure ne pas s'être disputé avec sa femme cette nuit-là. Le couple avait engagé une procédure de divorce. D'après les enquêteurs, Cédric Jubilard acceptait très mal la séparation. Il surveillait sa femme depuis plusieurs semaines, était devenu très intrusif et pouvait se montrer brutal et agressif. Delphine Jubilard comptait refaire sa vie avec un autre homme. Elle était très proche de ses 2 enfants et l'hypothèse d'une disparition volontaire a très vite été écartée, selon le procureur de Toulouse. Dans cette affaire, les investigations sont encore loin d'être terminées. Le corps de l'infirmière de 33 ans n'a toujours pas été retrouvé. Et Cédric Jubilard continue à clamer son innocence.
Aucune preuve matérielle à ce jour. Cédric Jubilard reste présumé innocent, rappelle son avocat qui se dit surpris par la qualification d'homicide volontaire.
Et on vote ce week-end. Dernier préparatif ce matin avant les départementales et les régionales.
Premier tour demain avec tout un protocole sanitaire dans les bureaux de vote. Exemple à Laval où il a bien fallu s'adapter pour trouver des lieux avec suffisamment d'espace. Reportage France Bleu Mayenne, signé Aurore Richard.
Chaque bureau doit être assez grand pour accueillir le scrutin des départementales et celui des régionales. Il faut aussi de l'espace pour faire respecter la distanciation entre les électeurs, mais aussi entre les assesseurs, comme l'explique Jean-Michel Tirouflet, le responsable de la logistique élection à la mairie de Laval.
Entre la personne qui a l'urne, la personne qui enregistre la carte de vote et celle qui fait émarger, il faut qu'elles aient au moins 1m50 l'une de l'autre toute la journée.
Une personne par table et pas plus. Autre règle à respecter, pas plus de 3 électeurs par scrutin. Anne-Sophie Lespiot est la directrice du secrétariat général et de la réglementation à la ville de Laval.
1 à la table de décharge, 1 à l'isoloir et 1 au vote. Comme ça, les espaces sont bien respectés. C'est ce qui convient d'être.
Les électeurs devront être masqués. Tout est mis en place pour éviter les contaminations, insiste Stéphanie Bouziane, responsable du service réglementation élection de la ville de Laval.
On conseille aux gens de venir avec leur propre stylo de façon à ce qu'il y ait le moins possible de brassage de documents et de matériel.
À Laval, 7 bureaux de vote ont été modifiés ou déplacés pour respecter les règles sanitaires. C'est également le cas un peu partout en Mayenne selon la préfecture.
Et pour le mode d'emploi de ces élections, rendez-vous tout à l'heure dans le journal de 7h30 ou sur franceinter.fr. À propos du Covid, les chiffres poursuivent leur dégringolade. 1740 patients en réanimation, moins de 2500 cas positifs hier. Mais la tension avec des affrontements très violents depuis hier soir à Redon en Ille-et-Vilaine. Les gendarmes ont empêché l'installation d'une fête sauvage à l'hippodrome. Un jeune a eu la main arrachée. 5 gendarmes sont blessés. Information de nos confrères de France Bleu Armorique. On en reparle dans nos prochaines éditions. Pas de régional, pas de journaux non plus ce week-end sur Europe 1. C'est du jamais vu. Pour la première fois de son histoire, la radio est en grève. Les salariés protestent contre la mise à pied d'un journaliste et dénoncent un management autoritaire inadapté. Tout ça sur fond de plan de départ et de rapprochement avec la chaîne de Vincent Bolloré, CNews.
On connaîtra dans la matinée le nom du prochain président iranien.
Un choix réduit à peau de chagrin entre des candidats tous du même bord avec l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi en grand favori. Le pouvoir en place à Téhéran a tout tenté pour doper la participation. En jeu, la légitimité de son candidat. Mais le pays est rongé par la crise sociale et les sanctions économiques américaines. L'abstention menace de battre tous les records. Envoyé spécial en Iran pour France Inter, Franck Madvon.
La participation n'atteindra pas les 73% de la dernière présidentielle, mais hier à 22h, officiellement, 42% des Iraniens s'étaient rendus aux urnes et les bureaux de vote ont pu rester ouverts jusqu'à 2h du matin. Le nouveau président iranien aura donc été désigné par une proportion significative d'électeurs. Le déroulement du vote est jusqu'ici fidèle au scénario écrit par les autorités, qui peuvent même justifier l'abstention par la situation sanitaire. C'est le troisième acte. Il a fallu d'abord écarter les principaux candidats réformateurs, puis dérouler le tapis rouge aux favoris du système. L'ultra-conservateur Ebrahim Raisi reste le dénouement. Hachemi, qui tient une petite boutique d'électroménager, ne se fait guère d'illusions.
Avec Raisi, président, on va passer encore 4 ou 8 ans comme ça. On va vieillir, notre pays va encore s'affaiblir. Il y aura encore moins d'investissements. Mais au fond, que ce soit Raisi ou un autre, ça ne change rien. À vrai dire, on s'en fiche.
Les autorités tiennent donc leur récit, mais elles devront composer avec l'indifférence, voire le mépris, d'une grande partie des Iraniens. Téhéran, Franck Madvon, France Inter.
Et réponse donc dans la matinée. Ce samedi est un jour férié aux États-Unis, le 19 juin, désormais jour de l'émancipation des derniers esclaves afro-américains, le Juneteenth, voulu par Joe Biden, validé par le Congrès.
L'Euro de football, et avant le match des Bleus cet après-midi face à la Hongrie, ce sera à 15h. Voilà un résultat qui fait mal.
Aux Anglais, logiquement bien meilleur que les Écossais. Et pourtant, pas moyen de marquer dans ce stade de Wembley hier soir. Les Écossais se battent comme des lions. Le choc était très attendu, mais l'Angleterre tenue en échec, 0-0. Même pas certaine de se qualifier pour les huitièmes. Reportage à Londres, Jérôme Val.
Au coup de sifflet final, les supporters écossais ont fêté sous la pluie leur équipe comme si ce match nul avait des airs de victoire. Effet inverse chez les fans anglais qui sont sortis de Wembley la tête basse.
Very disappointing.
Why? Je suis si déçu, me dit l'un d'entre eux. On a été nul pour un autre supporter des Trois Lions. Cette équipe manque de leader. Harry Kane a été comme un fantôme. Mais bon, je reste optimiste, je suis anglais. Dans ce duel entre voisins, les Anglais n'ont pas été à la hauteur, reconnaît le milieu de terrain, Declan Rice.
Nous étions chez nous à Wembley, nous aurions dû gagner. Évidemment, il y aura beaucoup de critiques avec la presse, les réseaux sociaux et les fans. Mais nous devons rester positifs pour la suite de la compétition.
Pour les Écossais, au contraire, c'est un résultat qui fera date dans la rivalité séculaire entre les deux formations, le milieu de terrain Bill Gilmour et lui homme du match.
Je suis si fier de jouer pour mon pays et surtout contre l'Angleterre à Wembley. Ce match restera inoubliable.
Dans ce groupe, rien n'est joué. Les quatre équipes peuvent encore se qualifier. Londres, Jérôme Val, France Inter.
15h, donc les Bleus dans un stade bouillonnant, plus de 50 000 spectateurs annoncés, pas de jauge imposée au pays de Viktor Orban et dans une chaleur caniculaire, 37 degrés prévus au coup d'envoi Hongrie-France à 15h cet après-midi. Après la victoire 1-0 face à l'Allemagne, c'est donc le deuxième match des Bleus. Enfin, en bref, on retiendra cette victoire de La Rochelle sur le Racing 92, 19-6. L'exploit qui envoie La Rochelle en finale du top 14 de rugby pour la première fois de son histoire. Enfin, le basket, les Française s'impose de 20 points face aux Tchèques. Deuxième match de l'Euro, 71-51. Et puis l'Américain champion olympique en titre, Ryan Crouser, qui signe le record mondial du lancer de poids cette nuit. Un jet à, tenez-vous bien, 23,37 m.
Et c'est pas des petits poids, hein. C'est lourd à porter. Merci Hélène Roussel.
C'est à cause de François-Régis Gaudry, il va nous parler de petits poids aussi
instant,
tout à l'heure.
Exactement. Le temps de ce samedi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Des orages et des orages violents même aujourd'hui sur une large partie du pays, Jean-Michel Golinski.
Ouais, exactement Eric, avec pour l'instant 27 départements entre le nord de la Seine, la Meuse, la Bourgogne, le centre, l'Orne et la Sarthe, placés en vigilance orange orage. Une vigilance qui va sans doute évoluer au fil des heures. Notez que le Rhône l'est toujours pour la canicule. Alors des orages survolent actuellement le nord de l'Aquitaine vers le Val-de-Loire, mais ils sont en perte de vitesse. C'est surtout cet après-midi et ce soir que l'activité orageuse va s'amplifier entre le quart sud-ouest, le centre Val-de-Loire et du bassin parisien aux frontières belges et luxembourgeoises, progressant même la nuit prochaine vers l'Auvergne, l'Allemagne et la Suisse. Des orages au caractère très violent. Et avant les orages, l'ambiance va devenir de plus en plus moite, dans des températures chaudes à l'est, avec 33 à Marseille, près de 34 à Lyon et Strasbourg, 36 à Grenoble et 37 sur le sud de la Corse. Des températures qui vont naturellement baisser après les orages de la partie ouest.
Jean-Michel Gonaski, Météo France.